Qu'il est missio, garde Arem la Terre, sur les ondes de Radio Albigès et Radio Air d'Otan. Bien le bonjour, Bounsouna Toutes. Aujourd'hui, une émission qui vous amène à l'aventure du local à l'international. Nous recevons un aventurier, anthropologue et navigateur. Il s'agit de Guy Mercadier. Guy Mercadier, bien le bonjour, Bounsoun.
Bounsouna Toutes.
Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard. Bernard, bien le bonjour.
Bounsoun à toutes.
Alors Bernard, toi tu es animateur bénévole à Radio Albigès, mais aussi kayakiste, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Alors Guy Mercadier, nous vous rencontrons à l'occasion de la 14e semaine de l'eau, organisée par le campus Albi Fonlabour du 15 au 20 mars 2021, qui a pour thématique eau et innovation. Alors vous connaissez très bien le campus Albi Fonlabour, puisque vous avez été élève puis professeur, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. J'ai été élève il y a très longtemps. J'ai dû rentrer en 1976, je crois. Et ensuite, oui, après quelques années d'études ici et ailleurs, d'ailleurs, je suis revenu une année professeur à Fonlabour sur la gestion et maîtrise de l'eau, avant de repartir ensuite vers l'enseignement supérieur agronomique.
Et à l'occasion de cette 14e semaine de l'eau, vous avez rencontré des étudiants pour parler de votre aventure et des problématiques liées au réchauffement climatique, entre autres. Alors en avril 2019, vous avez traversé l'archipel Lapon, c'est le pays du Père Noël. Donc vous l'avez traversé en kayak. Vous pouvez nous présenter un peu le pourquoi et le comment vous êtes lancé dans cette aventure que vous avez appelée le raid débâcle?
Oui, en fait, c'est une aventure qui s'inscrit dans un cycle de plusieurs aventures. En fait, je n'étais pas parti pour faire plusieurs aventures au départ, puis maintenant, c'est viscéralement accroché aux intentions. Oui, alors donc, j'ai décidé d'aller dans ces contrées un petit peu particulières, qui sont l'arc arctique. Donc, je suis déjà parti en explo en 2017 pour aller rencontrer les pêcheurs. Et je suis reparti en 2019 dans cette partie de l'archipel Lapon pour voir la débâcle. La débâcle, c'est le phénomène de fonte des glaces et de la neige. Et évidemment, la question du réchauffement s'est posée très très rapidement d'ailleurs, puisque j'étais confronté à la fois à ce réchauffement et à des refroidissements dus au réchauffement, j'expliquerai tout à l'heure. Mais voilà, donc l'idée, c'est par rapport à ma formation, c'est d'aller sur le terrain, essayer de comprendre un petit peu mieux, tout en étant très discret par rapport aux populations locales. Le but n'est pas faire de l'image et du sensationnel, c'est essayer de comprendre les choses et les gens, puisque en matière environnementale, on ne peut pas déconnecter les gens des choses environnementales. Voilà, donc je pars avec aussi cette dimension un petit peu aventurière. Moi, je me vois plus explorateur qu'aventurier d'ailleurs, mais bon, dimension un petit peu aventurière. Alors là, pour être très clair, elle est pour susciter l'intéressement des populations occidentales, puisque quand on est dans l'Arctique, y compris européen, on ne parle pas d'Occident. Là-bas, ils ne se considèrent pas comme des Occidentaux. Et surtout, bon, susciter l'intérêt ici, et puis également, sur place, susciter l'intérêt aussi. Il n'est pas question d'arriver comme l'explorateur du 19e siècle en Afrique. On arrive pour faire son projet, on est discret, on est consciencieux, on s'engage. Et si les gens trouvent ça intéressant, ils viennent vers vous. Et ça m'intéressait qu'ils viennent vers moi, et je voulais absolument pas aller faire du voyeurisme.
Alors concrètement, cette aventure, elle a dû se préparer bien à l'avance, mais concrètement, ça a duré 15 jours, c'est bien ça, 15 jours de traversée de l'archipel Lapon du nord au sud.
Oui, alors ça a duré, 15 jours au sens littéral, puisqu'il n'y a quasiment plus de nuit à cette saison-là. Ça a duré plus en réalité, puisqu'on est resté 5 semaines sur le terrain, et les jours avant et après, mais les jours avant surtout, sont au moins aussi importants que les jours du raid, puisque ce sont les jours qui m'ont permis de prendre la mesure, de prendre la mesure de la débâcle. En fait, tant que vous n'avez pas vécu de la débâcle, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est assez dantesque. Donc voilà, il me fallait ce temps-là pour comprendre les choses, comment ça se passait sur l'eau, pour, voilà, le but c'était de revenir, hein. Donc il fallait quand même voilà, préparer un petit peu le terrain. Donc j'ai passé 10 jours à préparer le terrain, ce qui était déjà très court, d'autant qu'on a eu 8 jours de tempête sur les 10. Et ensuite, ouais, je suis parti sur l'eau, sur la glace aussi. Les premiers jours, on consistait à marcher avec mon traîneau derrière et mon kayak. Enfin, mon traîneau était mon kayak. C'était un kayak avec des skis.
Bernard ? Oui, alors c'est une aventure extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est qui est dantesque dans la débâcle ? J'aimerais que vous précisiez, vous nous livriez quelques images sonores, bien sûr.
Je peux vous faire des onomatopées. Non, mais ce qui est dantesque, c'est la puissance de la glace et l'immédiateté des phénomènes météo. Pour vous donner un ordre d'idée, je pouvais passer de... Alors je vais faire en kilomètre heure, parce que moi je parle à nœuds, mais je vais essayer de faire la conversion. Je pouvais passer d'un calme plat à 70 km heure de vent et avoir des glaçons de 300 tonnes se former en une heure. C'était d'accord. Dément. L'eau n'est pas l'eau, c'est une espèce de on appelle ça le frasil ou frasil, c'est une sorte de soupe de paillettes de glace dans laquelle j'ai évolué. Donc puisqu'il y a un kayakiste à mes côtés, ça me demandait pas mal d'énergie parce que c'est pas de l'eau fluide du tout. Et ces paillettes de glace pouvaient geler en moins d'une heure, ouais, moins d'une heure, et parce qu'on pouvait passer également de plus 4 degrés à moins 27 en quelques heures, 2-3 heures.
Alors moi, je trouve intéressant votre aventure parce que vous avez une approche sportive un peu particulière, vu que là, ce n'est pas du sport de compétition, on n'a pas un chrono, il n'y a pas des sommes d'argent colossales non plus. Non. On est, je dirais, presque nu face à l'environnement, ouais. Et on doit faire avec et on doit trouver des stratégies pour évoluer dans cet environnement. Alors, peut-être que vous pourriez préciser des fois une ou deux aventures que vous avez vécues un peu spectaculaires pour nos auditeurs.
Oui, alors, les stratégies. Alors, mon idée aussi, c'était qu'un milieu dit délicat ou difficile, ou bon, voilà, l'homme a adopté des stratégies. Et moi, je suis géographe, mais aussi anthropologue de formation. Et je me disais que peut-être on avait intérêt à adopter les stratégies qui avaient été adoptées auparavant. Et je me suis dit qu'avec mes fines couches très techniques, très chères, très tout ce qu'on voudra, des couches de combinaisons de survie, etc., je me retrouvais finalement à résoudre les mêmes problèmes que pouvaient... devoir résoudre les Samis, les Lapons, donc les Samis localement il y a un siècle ou deux. Et donc ce que je voulais ressentir, c'était ça, c'était avoir mon regard de scientifique sur la question environnementale, la question de la débâcle, du réchauffement climatique, et avoir un ressenti local. Et donc si j'étais resté dans un chalet avec un 4x4 et des grosses caméras, j'aurais absolument pas eu ce ressenti, et voilà, il a fallu que j'aille au charbon en quelque sorte pour essayer de ressentir ce que les gens avaient pu ou toujours pouvait ressentir là-bas, ce qui m'a d'ailleurs valu beaucoup de sympathie de la part des populations locales. Bon, alors je leur fais un petit coucou parce qu'on est encore en contact et voilà, un petit peu émouvant. Voilà, donc les stratégies, ben, il y a eu des moments, alors il y a eu deux moments en particulier, alors un qu'on ne soupçonnait pas, bon, c'est la rencontre avec une femelle élan de 650 kilos, qui a trouvé que c'était plus intéressant de me chasser de son territoire qu'autre chose. Donc voilà, c'est assez émouvant. Bon, après, comme de toute façon, en courant, on est 4 fois moins vite qu'elle, ou 10 fois moins vite, je ne sais pas. J'ai décidé de m'asseoir et ça s'est très bien passé. Et puis, alors, le moment un petit peu clé de l'affaire, là, ça a été quand je suis malheureusement tombé à l'eau, quoi. Donc, il a fallu que je remonte sur le kayak en moins de 2 secondes. Bon, ça, jusque-là, ça s'est à peu près bien passé. Je m'étais bien entraîné, bien équipé, etc. Mais après, j'ai gelé dans le kayak. Donc, ça commence à être devenu compliqué un petit peu, au niveau cardiaque notamment.
Oui, justement, une grande préparation, voilà, autant physique que mentale aussi.
Ouais, alors c'est lié de toute façon, hein, parce que bon, on apprend notamment à ralentir son cœur ou à l'accélérer. Voilà, on apprend à aller dans l'eau froide. Donc le dernier jour de joie, ben, j'ai sauté dans l'eau qui était à -1, et là, j'ai trouvé qu'elle n'était pas froide du tout, hein. Donc il y a bien du mental dans tout ça. On apprend à se soigner, on apprend à se faire des points de suture, on apprend à être seul et à se débrouiller en toutes occasions. Enfin, quand je dis en toutes, c'est sans prétention, puisqu'il peut y avoir effectivement des occasions létales. Mais voilà, on ne pense pas à ça, enfin, on s'y prépare, mais comme on passe le code de la route, après on ne pense pas au code de la route quand on conduit une voiture. Hein. Donc c'est la même préparation, il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ça, il y a juste la volonté. Quoi.
Oui, alors je voulais intervenir sur... qu'est-ce que c'est qui vous a... Vous retenez, vous êtes imprégné d'une autre culture aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont les enseignements, nous, occidentaux, bien avec, comme vous dites, avec nos couvertures de survie, nos 4x4 et tout ça, on peut retenir des modes de vie des Samis?
Alors, c'est déjà... Alors, je mettrai quelque chose en premier, mais bon, parce que c'est sentimental, mais tant pis, je le mets. C'est le sens de la parole. On n'a pas besoin d'avoir d'avocat dans ces pays-là. Quand on a dit quelque chose, on le fait. Quand on vous a dit qu'on allait faire quelque chose pour vous, on le fait. Quand on vous dit que vous êtes le malvenu, on le dit aussi. Hein? Il y a un système de tradition orale qui est extrêmement... Alors, il faut faire très, très attention. Là, les premières fois, j'ai même bourdé 2 ou 3 fois... Hein, par exemple, en disant de tel ou tel que je le trouvais fort sympathique, ça ne se dit pas. Donc, il faut apprendre tout ça. Donc, il y a cette notion de la parole donnée, voilà. Moi, je l'ai mis en premier, tant pis. Il y a une autre notion, liée à l'environnement, c'est qu'il y a l'essentiel et le peut-être pas inutile, mais disons le plus secondaire, voilà. Par exemple, la musique, c'est essentiel, beaucoup plus qu'en Europe. Enfin, vous voyez, je dis en Europe, alors qu'on est en Europe, en pays sami, mais voilà, la musique c'est essentiel. Le temps donné au temps c'est essentiel. Ne pas contrer la nature c'est essentiel. De toute façon, je vais vous dire, si vous contrez la nature, vous perdez. Donc ça c'est vite vu. Il y a un très très grand chantier en cours de construction d'éoliennes dans la région de Luleå et par un consortium chinois, et ils ont de gros problèmes parce que le réchauffement produit des perturbations climatiques et qui font que les éoliennes tombent. Voilà. Donc c'est ça la Laponie. Donc il y a le sens de l'essentiel, le sens de la parole, et puis je dirais le sens du temps. C'est-à-dire qu'on est intimement persuadé qu'en 30 ans on ne bouleverse pas les choses, mais qu'en même temps, il ne faut pas les bouleverser pour ne pas avoir à les réparer. Donc, je ne dis pas que tout est parfait, hein, Laponie, mais au moins sur ces questions environnementales, il y a une perception environnementale qui... Je ne veux surtout pas dire qu'elle ressemble à celle des agriculteurs du 18e en Europe, mais il y a une perception environnementale qui est plus respectueuse, mais pas de façon intellectuelle. Elle est plus respectueuse de fait. Et voilà. Pour moi, c'est ça la vraie culture, Laponie.
Allez-vous parler de culture lapone, de ce peuple...
Ou Sami, le peuple
autochtone Sami. Et justement, on va écouter un chant Sami. C'est le chant d'un jeune éleveur de rennes qui nous raconte un peu sa vie dans la forêt.
La lovi posi kalvoja ja jo vaki las mirka li kolo lo la lo 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 la le lo 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 la na te torre soi visci rasti ja skirre no vel soja di ke lo le la lo lo le la le lo 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 la lo 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 Na no vei ve la shuva de ke lo 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 le lo lo la ko tongo mal mestele la le lo 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 Na te yo va ke la sverti ko yo lo 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 la lo lo la le lo lo la le lo le lo le lo 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 Na no ve poses kalechenyo ko lo 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 le lo lo la le lo lo la le lo lo la le lo le lo le lo lo
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès et de Radio Air d'Otan pour l'émission Gardarem la Terre. Vous venez d'entendre un chant traditionnel du peuple Sami, donc du peuple autochtone de Laponie. Donc la Laponie qui est une région transnationale située donc au nord du continent européen. C'est, je crois qu'il y a trois pays, la Suède, quatre pays, la Suède, la Norvège, Guy Mercadier.
Oui, la Finlande et la Russie.
Voilà.
Ouais.
Et donc on est toujours avec Guy Mercadier, navigateur, explorateur albigeois qui est parti en 2019 traverser l'archipel Lapon à la découverte justement de la faune, de la flore, mais aussi du peuple Sami. Alors justement, Guy Mercadier, qu'est-ce que vous avez pu voir justement par rapport aux problématiques environnementales liées à la vie des Sami, à leur mode de vie?
Alors, j'ai vu de la pollution. Ça, c'est le plus frappant parce qu'on ne s'attend pas à en trouver aussi haut. La pollution, alors essentiellement de la pollution due aux métaux lourds. Voilà, on ne va pas citer le pays le plus en tête. Voilà, un pays qui a beaucoup de bases militaires dans cette région. Mais de la pollution, j'ai vu de la pleine nature, évidemment, parce que ce sont quand même des territoires immenses. Donc il y a de la nature, de la très très belle nature. Et j'ai vu du réchauffement global. Alors là, c'est très compliqué parce que le réchauffement se traduit là-bas par une période hivernale plus courte. Alors, il y a deux saisons en Laponie. Il y a l'hiver, et comme ils disent eux-mêmes, la fin de l'hiver. Une saison hivernale, alors globalement, on va parler de saison hivernale quand on est à moins 15, de la neige partout, 4 ou 5 mètres de neige, etc. Là, ça dure 4 mois au lieu de 6. J'ai vu aussi, du point de vue strictement écologique, j'ai vu donc des phénomènes météorologiques beaucoup plus... Enfin, ou des épisodes météorologiques exceptionnels, beaucoup plus fréquent et arrivant de façon beaucoup plus subite que ce qui... Je fais pas mal de travaux, d'analyses de choses météorologiques hein, avec les instituts, notamment finlandais. J'ai vu ça et j'ai vu donc l'adaptation des hommes à tout ça. Et le problème qui se pose... Alors, je vais être un petit peu provocateur, là, mais il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, ou plus exactement, il y a des gens qui tirent profit de ça et des gens qui subissent de plein fouet. Alors, ceux qui subissent, c'est plutôt les cultures Sami. Puisque, alors, les cultures Sami, les Sami sont vus au travers, ce sont des éleveurs de rennes, parce que c'est ceux-là qu'on véhicule, hein, bon. Et effectivement, il y a des éleveurs de rennes, mais il y a aussi beaucoup de pêcheurs chez les Sami. Il y a globalement trois types de populations, les pêcheurs, les éleveurs de rennes, et les petites mains des Suédois, dans les industries ou dans les commerces. Enfin, les commerces, il n'y en a pas beaucoup, mais les industries. La pâte à papier, les mines. Mmh. Et en fait, c'est une sorte de territoire un petit peu no man's land qu'utilisent les Suédois occidentaux. Alors quand je dis les Suédois, les Samis sont Suédois. Enfin, en l'occurrence, là où j'étais, ils sont Suédois ou Finlandais ou Russes ou Norvégiens. Mais ils ont un parlement à eux-mêmes. Et ils ne se considèrent pas comme Suédois. Ils se considèrent comme Samis, absolument. Et, voilà, c'est comme ça. Et donc, voilà, ce sont les petites mains de l'industrie suédoise. Alors si je parle de ça en termes d'écologie, eh bien, c'est parce qu'il y a un lien, en fait, le relatif réchauffement, je dis bien relatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas, mais il est relatif. Le relatif réchauffement fait que de nouvelles industries arrivent dans les régions de Lapone et qui ne sont pas du tout à l'avantage des Samis. Le réchauffement produit notamment des phénomènes d'ennuiement. Alors la Laponie, c'est un pays d'eau, il y a de l'eau, des millions de lacs, des millions de tourbières. Et là, c'est pas tant qu'il y en ait plus, c'est que surtout la phase aqueuse, c'est ce qu'on appelle la débâcle, là où ça fond, dure plus longtemps, et c'est la période la plus difficile. Hein. C'est beaucoup plus simple de vivre sur de la neige franche, d'élever des rennes qui eux-mêmes creusent la neige. La neige apporte de l'azote juvénile et produit la pousse d'herbe pour le printemps. Quand c'est à noyer, ben l'herbe pourrit, donc il n'y a plus rien à donner à manger aux rennes. De la même façon, au niveau des rivières, c'est très torrentiel, etc., c'est inondable, enfin bon, et ça crée beaucoup de perturbations sur la pisciculture, sur les poissons en général, sur les piscicultures en particulier. Donc voilà, de gros changements pour les peuples autochtones, et puis évidemment ce sont des changements pour les peuples occidentaux venus du sud, puisque un Sami considère qu'il est dans le Grand Sud quand il est au Danemark. Là, des changements pour ces personnes-là, mais alors ces personnes en bénéficient, puisque ce sont des touristes qui, ou bien ce sont des industriels qui investissent notamment dans l'éolien ou dans la, alors non plus la pâte à papier maintenant, mais des produits issus du bois pour faire des biocarburants par exemple. Voilà. Donc le réchauffement, oui, malheureusement, il produit aussi des effets entre guillemets bénéfiques pour certains dans le pays Lapon. Voilà, je voulais le dire parce que bon, ça existe. Pour les Samis, c'est une autre paire de manches.
Voilà, en tout cas, on a l'impression que vous les soutenez, en tout cas, ce peuple Sami.
Ouais, alors je veux surtout pas dire ça. Eux certains m'ont dit la même chose, mais parce que je me sens pas, je suis pas missionné, je veux pas arriver comme encore une fois le missionnaire africain, la machin. Bon, après, ce que je soutiens, c'est des gens respectueux de la nature. Et je trouve que ces gens le sont. Bon, voilà. Mais ils pourraient s'appeler autre chose, ils pourraient être d'une autre nationalité, ils pourraient avoir une culture que je ne partage pas, dès lors, bon, c'est pareil. C'est, voilà, moi je soutiens ça, quoi. Je ne les sens pas, franchement, sur certains aspects, ces gens-là ne sont pas franchement différents de nous. Hein, enfin, voilà, ils ont tous des téléphones portables, il faut arrêter d'avoir des images. Mais par contre, ils ont, je prends un exemple très concret, excusez-moi, mais bon, parfois on a besoin en Laponie de protéger la nourriture du froid. Pour qu'elle ne soit pas trop froide, justement. Bon, et bien là, ils reconstruisent des cabanes, des swamis ou de la voue, en fait, des sortes de cabanes, d'abris, dont ils possèdent de la technique ancestrale. Ils la possèdent encore. Hein. Il faut savoir qu'il y a un renouveau de la culture sami, jusqu'à même faire blocage par rapport à la langue suédoise. Ils reconstruisent des cabanes en tourbe et en peau de renne, pas parce que c'est exotique et pas parce que c'est bien pour les touristes, parce que je vais vous dire, des touristes, il n'y en a pas. Pas beaucoup. Mais tout simplement parce que c'est plus efficace. Ils sont dans l'efficacité, ils ne sont pas dans le discours politique. Alors donc je soutiens cette vision-là de l'écologie pragmatique.
Oui,
donc,
par exemple, vous avez soulevé le problème de placement d'éoliennes qui ne tenaient pas sur leur socle.
Et oui, parce qu'en en fait, si vous voulez, y a un consortium chinois qui construit le plus grand parc du monde d'éoliennes au-dessus de l'Ouléo. Alors ils avaient tout prévu, hein, puisqu'ils avaient dit on va faire des éoliennes, il y a beaucoup de vent, on va mettre des plots de béton encore plus gros. Ce qui n'est pas idiot, hein, pour lutter contre le vent, je ne dis pas que je partage, mais ce n'est pas idiot. Bon. Voilà, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ce n'était pas le problème de la tenue au vent qui allait se poser, mais parce que justement ça se réchauffe et que la neige fond beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus subite, ben, tout simplement c'est les sols qui foutent le camp. Donc en fait les blocs ils tiennent, hein, les éoliennes aussi, mais pas le sol qui les porte. Hein. Voilà, donc ça, s'ils avaient demandé aux Samis, alors peut-être que les Samis n'auraient pas fourni une étude technique de la plus haute tenue, hein, voilà, mais ils auraient dit, vous savez, faites attention, hein, dès qu'il y a un petit peu d'eau, il n'y a plus rien qui tient.
C'est peut-être eux qui connaissent le mieux leur territoire. Le peuple Sami, on le rappelle, c'est un peuple qui a eu une langue aussi traditionnelle, régionale, qui a été interdite, je crois, pendant plus de 300 ans. Il y a un renouveau de cette culture depuis je crois, une soixantaine d'années. Ils se remettent à parler cette langue.
Oui. Alors, c'est un renouveau, et c'est même plus qu'un renouveau maintenant. Ça pose un vrai problème politique, un vrai problème éducatif. Parce que les personnes de 70 ans, 80 ans, on m'a demandé comment vous parliez avec les Samis. Ben, je parlais avec des gestes, hein, parce que, en fait, les personnes de 70 ans, 60 ans maîtrisent le Sami et le suédois, parfois un peu d'anglais. Moi, je ne parle pas suédois, donc on va essayer avec. Mais par contre, les personnes de moins de 30 ans sont en but, en refus de la langue suédoise, de ce qu'ils considèrent être une intrusion dans leur culture. Et donc, il y a des vrais problèmes, parce que, si vous voulez, parler sami, c'est bien, mais ça limite quand même à quelques activités économiques, et le fait de posséder une autre langue, comme nous d'ailleurs, comme nos jeunes, etc., c'est quand même un plus, c'est quelque chose de presque incontournable. Mais il y a à la fois un renouveau de la culture par des gens plutôt des milieux plus intellectuels, qui habitent de ce qu'on appelle là-bas les villes, mais qui sont des choses petites en volume. Mais dans les campagnes, en fait, on peut pas parler de campagne parce que ça ressemble pas aux campagnes, mais dans les déserts lapons et arctiques, c'est plus qu'un renouveau, c'est, je dirais presque une rétraction culturelle. Je respecte tout, hein, c'est comme ça. Mais voilà, il y a les deux. Il y a un renouvellement culturel, un milieu intellectuel plutôt, ou intégré. Il y a une grosse population de métis, hein, samis occidentaux. Mais après, il y a quand même dans les campagnes des rétractions comme ça, alors qu'ils sont plus embêtantes parce que je pense que ceux-là ont peu de chances de perdurer, quoi.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas lié au danger qu'ils perçoivent, danger sur leur territoire, là où ils vivent, Et bien sûr, pour leur culture, ça c'est évident, mais aussi pour le territoire, parce qu'il y a plein d'enjeux économiques qui sont, j'ai entendu dire, qui étaient en cours. Quoi.
Ah, il y a de très gros enjeux. Il y a de très gros enjeux. Si on exploite complètement le territoire lapon en matière minérale, en matière. Bon, l'Europe peut s'asseoir sur un gros fauteuil, un gros coussin. C'est très très riche, la Laponie. Oui, c'est bien sûr lié à ça. Ouais, c'est lié à ça. Je pense qu'ils perçoivent plus que le danger, ils perçoivent la mort. C'est parce que c'est la mort annoncée, là.
Alors, ce que j'apprécie aussi dans votre aventure, c'est que vous n'avez pas privilégié les gros moyens occidentaux, c'est-à-dire des modes de financement colossaux, mais une éthique, et ça, je trouve ça intéressant. Bon, c'est un commentaire, mais peut-être vous pouvez développer, parce que c'est vrai qu'il y a des documentaristes qui arrivent avec des pommes d'argent. Enfin bon.
Ouais, alors bon, je n'ai pas privilégié l'argent. D'abord, je ne l'avais pas. Il faut être honnête jusqu'au bout. Je ne l'avais pas. Quand bien même je ne l'avais pas, j'en avais quand même plus. J'en avais en tout cas suffisamment pour ne pas m'exposer autant. Je pouvais faire une équipe plus conséquente. Je pouvais avoir un bateau plus. Voilà. Mon idée, c'était que les personnes qui avaient le plus de choses à m'apprendre étaient les gens qui étaient les plus éloignés culturellement de moi. Donc il fallait que moi j'arrive avec quelque chose de complètement absurde pour qu'on puisse faire lien. Donc là, c'était complètement absurde. J'ai été seul sur l'eau 12 jours sur 15 parce que même eux n'y allaient pas, quoi. Et là, le premier raid en 2017, ils m'ont même interdit pendant 8 jours de mettre mon bateau à l'eau. Donc, il fallait que, voilà, qu'il y ait un crédit confiance, etc. Et donc, ils ont dit, ils m'appelaient le français fou, moi, mais cet intérêt-là, suscité par quelque chose. Et je ne voulais pas que ça soit. Je leur disais tout simplement, je viens comprendre, c'est tout, je viens comprendre. Après, je dirai chez moi, mais je viens comprendre. Et voilà, c'est tout. Et donc, ça, même si vous avez des gros moyens, l'intérêt, c'est de ne pas les montrer, quoi. Alors moi, je n'en avais pas, ça tombait bien.
Oui, parce que c'est souvent ce qui est un peu reproché aux Occidentaux, c'est que quand ils vont faire une aventure, entre guillemets, ils arrivent avec les gros moyens et les populations locales, y a un blocage, quoi.
Et oui, parce que mais si vous voulez, quand ils arrivent avec ces gros moyens, ils viennent voir. C'est du voyeurisme. Moi, j'ai employé le mot « comprendre ».
D'accord.
Jamais je leur disais « je viens voir ». Je n'étais pas dans le voyeurisme du tout. Je venais comprendre, c'était une démarche personnelle. Et ça allait d'ailleurs, hein, voilà. Et après que vous ayez deux ou trois sponsors sur la coque, c'est epsilon. De toute façon, on a entendu de la musique Samy, enfin des paroles Samy aussi. C'est incompréhensible Samy, mais je ne vais pas citer mes sponsors, mais c'est incompréhensible pour eux aussi les sponsors. Donc là, au moins, on est à égalité. Mais je venais comprendre, pas les voir. Je venais pas les voir.
D'accord.
Allez, Guy Mercadier, mois de mars 2021, l'aventure continue puisque vous participez à la 14e semaine de l'eau organisée par le campus Albi-Fonds-Labour. Et à cette occasion, vous avez rencontré des étudiants justement pour leur faire mieux comprendre, pour échanger et transmettre des valeurs.
Oui, ça a été passionnant. On a fait plusieurs matinées là, comme ça autour de l'eau, puisque c'est leur formation, gestion et maîtrise de l'eau. Alors, hein, gestion et maîtrise, hein, vraiment de l'eau. Et là, je voulais donner de l'humanité et une épaisseur humaine à l'eau. En leur disant, l'eau, c'est guère que, bon, c'est déjà un composé chimique, tout ce qu'on voudra, mais c'est aussi ce qu'on en fait, comment on l'aperçoit, etc. Et ça me semblait intéressant de leur dire, dans un pays d'eau, parce qu'il y a infiniment plus d'eau en Laponie qu'ici, même s'il pleut moins qu'ici, ça, allez comprendre, hein. Mais il neige beaucoup plus. Voilà, c'était cette idée de leur dire que l'eau, c'était d'abord un complexe, hein, un complexe écologique, écosystémique, enfin, appartenait à un complexe écosystémique, et puis de leur dire que dans le complexe écosystémique, il y avait des hommes. Et c'était, voilà, cette idée-là. Et c'est vrai que peut-être que j'ai pu accéder à nouveau à mon cher lycée de Fonds-Labour, parce que j'avais fait ça. Il est certain qu'on ne m'aurait pas appelé, parce que, voilà, ça a servi à ça, ces raids. Ça sert à ça, ces raids, je parle au présent.
Ouais, donc de prolonger l'aventure et de faire comprendre et d'échanger quelles ont été un peu les questions et les attentes de ces étudiants.
Alors assez curieusement, on est très vite parti sur la question du réchauffement climatique. Bon, même si je trouve qu'on en parle pas trop, on en parle de façon trop linéaire et trop centrée. Il faut mettre les choses plus en perspective. Enfin bon, ça, il faudrait une autre émission. Et leur question, alors moi, ça m'a ravi. C'était vraiment, ils ont posé des questions sur les façons de vivre. Oui, l'eau, mais comment, pourquoi, etc. Pas intrinsèquement, on a moins d'eau, on a plus d'eau. Enfin, voilà, on est sorti de cette vision quantitative, là. Et ça, c'était intéressant. Je dis pas qu'il faut, elle est importante, la vision quantitative, mais il y a aussi, hein, quand on parle d'irrigation de maïs dans le sud-ouest de la France, il y a du quantitatif, mais il y a aussi du sens. Quel sens? Voilà. Et en fait, comment le réchauffement... Alors, par exemple, le réchauffement climatique en Laponie fait sens chez des gens qui n'ont pas notre vision des choses et pourtant ont des savoir-faire, des fondamentaux qui nous seraient extrêmement utiles. Voilà, ça a été un peu le fil directeur.
Bernard, une dernière question ?
Oui, vous pouvez citer un ou deux fondamentaux qui pourraient... Nous guider un peu
de... Mais il faut arrêter de goudronner les routes.
D'accord.
Et en Laponie, elles ne sont pas goudronnées, elles sont engravillonnées de façon très technique. Ce n'est pas si simple que ça, on ne jette pas le gravillon. Et par rapport aux changements subis d'humidité, d'hygrométrie, de pluviométrie, c'est un système formidable. Et ça impose de rouler différemment aussi. Mais ça marche très très bien et je pense que alors voilà, on aurait intérêt à prendre des choses comme ça. Ils maîtrisent parfaitement ces techniques là quoi. Et voilà, donc si on se retrouve dans des configurations de forte pluviométrie, et c'est en train de se passer dans certaines vallées alpines, etc., faut venir vers ces techniques là le goudron ne tiendra pas, et c'est vachement mieux en plus parce que c'est plus écologique, hein.
Oui. Ben, c'est aussi une autre approche, quoi. C'est-à-dire qu'il faut accepter de prendre du temps à écouter ces populations, à faire des échanges. Et par ailleurs, je pense que votre aventure leur a permis d'avoir un regard extérieur sur leur culture, je pense.
Alors oui. Et pas comme on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire, par exemple, certains m'ont dit, ah ben tiens, j'avais pensé faire du tourisme. Au bord de la route, mettre des tipis. Enfin, là, vous, c'est un tipi, en fait, hein, comme les tipis amérindiens, hein, tipis de peau de renne. Et je pensais faire un guichet, etc. Et puis, moi, j'ai dit, non, peut-être que les gens qui viendront à Laponie ne viennent pas voir ça. Et parce que, si vous voulez, les formes d'exotisme ou d'archaïsme que nous avons, notre regard, le regard que nous portons vis-à-vis d'eux, mais ils ont les mêmes dans l'autre sens. Hein.
D'accord.
Par exemple, moi, quand je disais que je venais du sud de la France, ils me demandaient si je jouais du flamenco ou s'il y avait des dromadaires. Hein. Parce qu'à leur échelle, là, Albi, c'est beaucoup plus proche du Maghreb que de l'extrême arctique. Hein. Donc, c'est comme nous, hein, quand on parle du Grand Nord, d'abord, les gens me demandaient s'il y avait des ours blancs. Non, il n'y a pas d'ours blancs en Europe. Bon, mais c'est pas grave, je veux dire. Mais voilà, c'est pas le Groenland. Bon, alors, évidemment, on est aux mêmes latitudes que le Groenland, ça y ressemble sur certains aspects, etc. Mais voilà, nos regards se sont bien croisés, j'espère, je pense, moi.
Guy Mercadier, pour terminer, vous avez de futurs projets prévus ?
Oui, alors ça ne va pas être original, c'est repartir dans le Grand Froid, hein, dans le Grand Nord, dans le Grand tout court. Et là, la seule chose qui me reste, enfin, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais... Les territoires sont immenses et j'ai l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose de très, très, très petit, bien sûr, à l'échelle de ces territoires-là. Et là, j'aimerais bien les parcourir sur de plus grandes distances pour faire avoir plusieurs regards en un laps de temps donné, parce qu'après, le temps est compté par l'argent, par tout, bon, voilà, mes possibilités, etc. Donc là, ça serait peut-être de prendre un petit ULM et de parcourir de grands territoires et d'aller voir des communautés. Et puis après, je ne sais pas plus. Ou je vous en dirai plus tard.
Très bien, mais en tout cas, on aura grand plaisir à vous recevoir.
Merci
une
beaucoup.
Cope d'émail sur les ondes de Radio Albigès et de Radio Air d'Otan. Donc je rappelle, vous êtes explorateur, anthropologue, navigateur. Vous êtes parti en avril 2019 traverser l'archipel Lapon et vous participez donc en mars 2021 à la 14e semaine de l'eau organisée par le campus Albi-Fonlabour. Bernard, grand merci Père Toutaco.
Ben, c'était un plaisir. Moi qui suis un petit kayakiste, mais cantonné dans ma discipline et pas autant ouvert que Guy, ça a été un réel plaisir.
Merci beaucoup. Partager.
Et clic et clac, l'émission Gardarem la Terre, Essakabad, Alplazé, Brave Monde.